Merci Thibaut, et oui, bienvenue à tous dans le premier carnet de l'histoire de l'année. Vous retrouvez dans cette chronique ce qui fait l'actualité de l'histoire. Les ouvrages qui viennent de paraître, les expositions et les colloques à ne pas manquer, mais aussi les classiques sur des questions d'histoire qui font parler, et bien d'autres surprises encore. Pour ce premier numéro, nous fêtons un autre anniversaire, celui des 1100 ans de la Normandie.
Mais pour les grands vainqueurs de 1066, l'histoire ne s'arrête pas là. Une nouvelle force militaire est née en Europe. Elle mènera d'autres campagnes victorieuses qui lui vaudront de prestigieuses conquêtes. Ces hommes influenceront profondément l'histoire de l'Europe. Et pourtant, ils disparaîtront peu à peu des territoires qu'ils ont conquis. Et leur déclin restera un mystère.
Les hommes en question, ce sont les Normands. La première conquête évoquée, c'est Hastings. L'ensemble, dans un documentaire diffusé en 2009 à la télévision française, qui nous montre qu'encore une fois, le mythe des Normands et de Guillaume le Conquérant, celui qui s'est exprimé déjà au millième anniversaire en 1911, une historiographie donc teintée d'un régionalisme considérable qui perdure tout au long du XXe siècle. Je ne résiste pas au plaisir d'en citer un exemple avec Jean de la Varenne, auteur d'un ouvrage intitulé « Guillaume le bâtard, virgule, conquérant ». Grâce à nos découvreurs, nos marins, à nos soldats, à nos poètes, l'impulsion communiquée à l'esprit par le conquérant qui voulut paver d'abbaye sa province, nous l'avons accrue. Nos bâtisseurs, nos écrivains furent tels que si on devait les arracher du patrimoine national, il ne resterait à la France que bien peu d'architecture et de lettres. Et, ressurgissant de nos ruines, hautain parmi nos décombres, sous l'égide du héros qui sut apporter au monde sa grandeur, sa clarté, sa patience, nous sommes toujours prêts à servir l'héroïque, mais non l'inintelligent. Cette année, cela fait 1000 ans que Roland, chef viking, signale avec le roi de France, Charles III le Simple, le traité de Saint-Clair-sur-Epte. Le début de conquêtes qui se poursuivirent au Xe et XIe siècle, menant les Normands, les hommes du Nord, dans les îles britanniques, en Russie, en Méditerranée et jusqu'au Proche-Orient et à la seigneurie d'Antioche.
Alors l'inscription dans les mémoires, ou mieux dans les mémoires nationales ou régionales, est peut-être de nos jours l'un des effets les plus marquants du phénomène viking. Et bon, je parlais des commémorations. Là. L'année prochaine, 2011, ce sera le 1100e anniversaire de la fondation du duché de Normandie, qui va faire l'objet, là aussi, d'un certain nombre de commémorations.
Comme Pierre Bauduin, professeur à l'université de Caen, l'a fait l'an dernier, comme ce que vous venez d'entendre, il faut souligner les enjeux qui peuvent sous-tendre cette réflexion. Et pour en savoir davantage sur une des parties les moins connues des mondes normands, les terres russes, je vous invite à vous rendre au musée de Normandie, à Caen, où vous attend une exposition temporaire intitulée Russie viking vers une autre Normandie. Ce sont au total plus de 500 pièces archéologiques qui sont présentées au public pour la première fois en France. Objets de parure en métal précieux, jeux d'enfants et instruments de musique, tablettes d'écriture en écorce de bouleau, outillage agricole et ustensiles pour la pêche, armes, vêtements, etc. Tout ça dans un état admirable pour la date des objets. Bien des similitudes en effet existent entre la naissance de la Normandie et celle des premiers établissements en Russie, au Novgorod, où les Scandinaves furent présents dès le 8e siècle. Cette autre Normandie est-elle alors une autre différente ou une autre similaire? Cette exposition permet de jeter les pierres d'une réflexion. Je vous propose maintenant d'écouter un des historiens qui renouvelle et repense aujourd'hui les mondes normands, David Bates, qui prépare actuellement une nouvelle biographie de Guillaume le Conquérant.
Guillaume restera toujours un sujet difficile. Il a été un sujet très difficile pour ses contemporains parce que il a été un conquérant, directement ou indirectement responsable pour des milliers de morts. Il nous fait faire face à un des problèmes fondamentaux, des plus difficiles pour l'étude de l'histoire. La légitimité de la violence, de temps en temps extrême, en poursuivant ce qu'il a cru être ses droits, ce qu'il a cru être la justice. Et il faut dire, ce n'est pas les Anglais, les Normands, les Français, les Britanniques, etc., du 20e et 21e siècle qui s'est débattu de ces questions. Comme je vais vous illustrer, on débatte de ces questions, même au moment du couronnement de Guillaume. Et il faut lire, et il faut toujours les lire, les discours moraux, surtout d'Audrey Crital et de Guillaume de Malmesbury. Aussi, nous devrions considérer Guillaume, l'analyser comme avoir fondé un empire. L'union de la Normandie et de l'Angleterre, créée en 1066, a duré jusqu'à 1204.
En attendant la biographie du professeur Betz, qui sera, n'en pas douter, un pas en avant extraordinaire dans l'historiographie normande, je vous invite à vous plonger dans l'ouvrage de Pierre Bouet, consacré à la bataille d'Hastings, récemment paru chez Talendier dans la collection L'Histoire en bataille, l'occasion de revenir sur une des dates les plus connues de l'histoire occidentale, mais surtout sur un des événements les moins bien connus, paradoxalement. Et pour finir ce carnet, je vous propose un classique, l'ouvrage de Pierre Bauduin que vous avez entendu tout à l'heure, ouvrage qui s'intitule « La première Normandie 10e-11e siècle » et qui est paru aux presses universitaires de Caen en 2004. C'est à l'étude de la constitution progressive de la principauté normande et à la définition de ses frontières orientales que s'attache l'auteur. Cette frontière est le fil conducteur de la recherche qui a pour immense mérite, au pluriel, j'insiste, de d'abord revenir sur une historiographie pourtant déjà parcourue par de grands noms comme Lucien Musset et Michel Debord, qui était arrivé à une certaine aporie liée au maintien d'une certaine emprise régionaliste, comme j'ai pu vous le dire tout à l'heure. Deuxième immense mérite de Pierre Bauduin, c'est de revoir les sources, en évitant le regard hypercritique qui a été la tendance des années 70 à 90, et notamment ce regard hypercritique qui s'exprimait envers les sources narratives. Il revisite notamment les sagas des mondes nordiques. Enfin et surtout, immense mérite de replacer l'histoire des débuts de la principauté normande dans le contexte général de l'histoire du nord du monde franc. Bref, c'est un ouvrage brillant que tout historien du Haut Moyen-Âge devrait avoir eu entre les mains. Et c'est donc sur ce beau conseil que je vous laisse et vous remercie d'avoir écouté ce premier numéro de la saison de 20 minutes d'histoire. Continuez à explorer le site de Transistor avec notamment un numéro de Transversar Nouvelle Formule consacré au cinéma. Bonne écoute!
Une histoire qui parte d'une question, une histoire qui tutoie le passé, une histoire qui questionne les documents.
Le temps de l'histoire, le temps des hommes, le temps de la vie sociale, c'est un temps multiple.
C'est à partir de cette étude des structures sociales de la société d'Ancien Régime que je suis, si je puis dire, entrer en révolution.
20 minutes d'histoire,